Vous écoutez
RMC.
Vendredi 19 juin,
l'info sur RMC.
Il est 6h juste, Céline Kallmann est là pour les dernières informations. Céline, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Agressé parce que policier, il se confie sur RMC ce matin. Le policier roué de coups à Lyon en début de semaine est traumatisé. Il est toujours à l'hôpital. La convention climat, point final aujourd'hui avant de rendre la copie dimanche au gouvernement. Une des mesures phares, contraindre les propriétaires et les bailleurs à rénover. 5 cas positifs Covid-19 à Saint-Etienne, dont 3 joueurs. L'entraînement du reste de l'équipe aura lieu comme prévu aujourd'hui. Bienvenue à tous sur RMC. Le témoignage d'un homme traumatisé ce matin sur RMC, celui de ce policier passé à tabac dans la nuit de dimanche à lundi à Lyon. 3 personnes, dont 2 adolescents, ont été mises en examen pour violence volontaire. 2 sont derrière les barreaux. La victime de 34 ans a vu sa vie défiler alors qu'il se trouvait avec sa compagne quand il a été violemment agressé. Il s'est donc confié depuis son lit d'hôpital à Gwenaëlle Vendrestin et Valentine Roux.
Cheville fracturée, luxation du talon, ecchymose sur tout le corps. Les blessures d'Alexandre sont physiques, mais aussi psychologiques.
Et que je me retrouve seul le soir, je revis la scène où je manque concrètement de décéder. La nuit, je compte plus les moutons, je compte les coups. Le sommeil est très difficile à trouver.
Fonctionnaire à police secours depuis 15 ans, il affirme que les relations entre les policiers et la population sont de plus en plus violentes.
Mes collègues et moi avons l'occasion de constater qu'il y a de plus en plus d'impunité, de sentiment d'impunité, pas nécessairement d'impunité, mais au moins les gens se sentent impunis de pouvoir s'en prendre à la police.
Encore hospitalisé et arrêté pour 1 mois et demi, Alexandre est traumatisé par son agression, mais il refuse catégoriquement de changer de métier.
C'est ma vocation, c'est une vocation, et pour un homme monde, je voudrais m'en départager. C'est ce que je suis, c'est ce que je ferai toute ma vie. C'est ce qui aide à subir toutes les phrases qu'on subit à l'heure actuelle, tout le lynchage qu'on peut subir, mais oui, ça reste dur.
Effrayé par d'éventuelles représailles, le policier compte déménager avec sa famille dès que possible.
Voilà Alexandre. Il faut m'ouvrir le micro, là.
Ça y est, oui.
Il est ouvert, là? Alexandre, pardon. Alexandre, ce policier, sera en direct avec nous tout à l'heure à 7h10.
Ils ont ingurgité des milliers de pages de rapports, passé des semaines, des mois, rencontré des dizaines d'experts. Les 150 participants de la Convention citoyenne pour le climat vont rendre leur copie verte, verte et urgente. Ces Français tirés au sort se retrouvent aujourd'hui pour 3 jours. Ils mettront leur rapport dimanche au gouvernement. Durant ces 3 jours, ils vont voter pour les mesures qu'ils gardent ou non, Aurélia Manoli.
Oui, des mesures qui proposent des changements à tous les niveaux, de mesures parfois assez radicales, comme cette proposition de réduire la vitesse sur autoroute à 110 km. Ou celle d'interdire tout simplement les vols intérieurs d'ici à 2025 lorsque la destination est accessible par un autre moyen de transport que l'avion. La Convention veut aussi agir massivement sur la rénovation énergétique des logements en l'imposant aux propriétaires et bailleurs, sans quoi ils ne pourraient tout simplement pas louer. Les citoyens souhaitent aussi s'attaquer à la surconsommation. Cela passerait par l'interdiction des publicités pour les produits les plus émetteurs de gaz à effet de serre. Enfin, plus symbolique, les citoyens veulent inscrire la lutte contre le dérèglement climatique comme objectif de la République dans la Constitution. Il propose de créer un crime d'écocide également pour toute action ayant causé un dommage écologique grave.
Merci Aurélia. William Ocan est l'un des citoyens de cette convention. Il habite à Nantes. Cet architecte de 33 ans a travaillé sur les thématiques du logement. Il est impatient de rendre concrètes les mesures décidées.
Il y a une certaine impatience de pouvoir enfin transmettre ces mesures. Dans le groupe Se Loger, on avait à cœur la rénovation énergétique globale de l'ensemble des bâtiments en France, de réguler le chauffage et la climatisation dans les lieux publics, et un troisième élément aussi de lutte contre l'artificialisation des sols, de faire attention à où on construit maintenant, et de construire en priorité sur des zones déjà artificialisées. Donc là, on prend les exemples d'anciennes friches industrielles, et surtout, on veut maintenant avoir cette phase-là d'ouverture, de discussion avec tous les Français, quoi.
Et je le rappelle, donc, une fois votées ce week-end, ces mesures sont remises au gouvernement. Emmanuel Macron s'est engagé à les retranscrire soit au Parlement, soit par décret, soit dans un référendum. La taxation du gazole dans le BTP, ce n'est pas le moment de gonfler l'addition. Le gouvernement va reporter d'un an la suppression de l'avantage fiscal sur ce gazole utilisé par les engins de chantier. Al-Qaïda au Maghreb islamique reconnaît la mort de son chef. La France avait annoncé il y a 2 semaines que ses forces spéciales avaient tué l'Algérien Abdel Malek Droukdal. dans le nord du Mali. Dans une vidéo, l'organisation terroriste promet de poursuivre le combat contre les forces françaises et autres en Afrique du Nord et au Sahel. RMC 6h04, la loi Avia contre la haine en ligne retoquée et vidée de sa substance. Le Conseil constitutionnel a largement censuré la proposition portée par la députée de La République En Marche, Laetitia Avia. La loi devait entrer en application dans moins de 15 jours. Objectif, obligé à retirer sous 24 heures des propos racistes, notamment les sages ont jugé que certaines dispositions étaient attentatoires à la liberté d'expression. Laetitia Avia est déçue, mais n'a pas l'intention de renoncer.
Il y a forcément une déception à ce que ce combat n'aboutisse pas. Mais cette décision du Conseil constitutionnel, c'est aussi une feuille de route. Il va falloir reprendre les travaux, échanger à nouveau avec les parties prenantes. Parce qu'il y a un objectif derrière, c'est d'assurer la protection des internautes. Et pour cela, il faut que nous trouvions des solutions applicables. Moi, je vais prendre le temps, le recul nécessaire pour analyser cette décision et voir ce que nous pouvons en faire.
Lundi, l'école sera de nouveau obligatoire pour tous avec un protocole sanitaire largement allégé, vous le savez. Pourtant, certains parents refusent toujours de renvoyer leurs enfants dans les salles de classe. Alfred Orange.
Quand on demande à Estie si ses enfants reprendront le chemin de l'école, elle est catégorique.
Absolument pas.
Du CE1 à la première, elle assure depuis 2 mois les programmes de ses enfants et compte finir l'école à la maison.
Il y a trop d'incertitudes en fait. Et voilà, c'est ça qui me fait peur. Je préfère garder mes enfants si on a attendu jusqu'à maintenant. Encore 2 semaines, ça ne changera pas grand-chose.
Une situation sanitaire qui fait douter Nadia, mère de 2 enfants en primaire. Pour elle, la journée de lundi sera un test.
Je vais voir un peu comment ça va se passer. S'il y a trop de monde, trop d'élèves, je pense que je vais les retirer pour les 15 jours, je les garde à la maison. J'ai peur si jamais ils rattrapent le virus, on ne sait jamais quoi.
Même si ce retour à l'école est obligatoire, les parents qui décident de garder leurs enfants ne seront pas sanctionnés, d'après Jean-Rémy Girard, président du syndicat national des lycées, collèges et écoles du supérieur.
L'école ou le collège accueilleront votre enfant, mais si vous ne le pouvez pas ou si vous ne le voulez pas, nous, en tant que personnel de l'éducation nationale, nous n'allons pas vous chercher des poux dans la tête.
D'après ce professionnel, une simple prise de contact entre la famille et l'établissement suffira à justifier une absence.
Football, la reprise de l'entraînement pour 3 joueurs du club de Saint-Étienne stoppé net. Ils ont été testés positifs au Covid-19. 2 membres du staff sont aussi concernés. Les résultats sont tombés hier, Julien Richard.
Oui, 3 joueurs dont l'identité n'a pas été révélée. Les Verts reprenaient le chemin de l'entraînement officiellement hier, mais 33 joueurs et 21 membres de l'encadrement étaient convoqués dès mercredi pour une batterie de tests médicaux et donc un dépistage du Covid-19. Test PCR qui détecte à l'instant T s'il y a infection et test sérologique qui permet de voir si l'on a été en contact avec le virus. La nature des tests positifs n'a pas été précisée. La Saint-Étienne a indiqué dans un communiqué qu'il s'agissait de cas contractés pendant la période de confinement. Les 5 positifs n'ont pas été en contact pendant cette période. Des cas tous asymptomatiques. Ils ont été mis à l'isolement chez eux, sous surveillance médicale et vont subir des examens complémentaires sous 24 heures comme le veut le protocole de reprise. Saint-Étienne doit disputer la finale de la Coupe de France fin juillet face au Paris Saint-Germain.
L'entraînement pour le reste de l'équipe aura bien lieu comme prévu aujourd'hui.
Bien, il est 6h08 dans tous les clubs de Ligue 1. On est en train de tester les joueurs. Il est 6h08. Le plastique. Si nous parlions du plastique ce matin. Pourquoi le plastique ? Ben parce qu'avec le confinement, on a utilisé à nouveau beaucoup, mais alors beaucoup de plastique, masques, gants, surblouses, bouteilles en plastique, produits à usage unique, etc., etc. Et les associations qui luttent contre l'utilisation du plastique s'inquiètent. Plusieurs associations et entreprises de l'économie circulaire alertent sur le retour en force du plastique. La loi prévoit, vous le savez, une sortie du plastique jetable d'ici 2040. Les associations alertent, il ne faut pas se relâcher. Nous sommes allés sur la côte méditerranéenne. Des citoyens ont décidé d'aller ramasser le plastique sur les plages et le constat est triste. Il y en a encore plus qu'avant le confinement. Reportage sur la plage des Arresquiers à Vic-la-Gardiole. Vic-la-Gardiole, c'est entre Montpellier 7 dans l'Hérault. Mao Becker-Granier.
Les sacoches encore vides, Annaëlle et Solène arrivent sur la plage à vélo. Objectif, ramasser tous les déchets plastiques qu'elles croisent.
On a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose. Quand on arrive, on a l'impression qu'elle est propre, cette plage. Mais les plastiques sont partout. Et en 5 minutes, là, on a déjà des cartouches, on a des briquets.
beaucoup de coton-tige.
Très rapidement, les sacs se remplissent et l'inquiétude d'Anaël Marot grandit. Depuis la crise, cette bénévole a donc décidé d'organiser des ramassages d'ordures tout l'été sur la côte méditerranéenne.
Depuis le lever du confinement, en plus des déchets habituels, on a encore plus de couverts en plastique à usage unique, de suremballage. Ça, on en retrouve encore plus qu'avant. Pourtant, on avait pris une bonne habitude. Les citoyens étaient davantage dans une habitude zéro déchet, mais on ne nous laisse pas le choix en fait.
Des bananes en sachet, des légumes sous plastique, tant que dure la crise, 66% des Français disent privilégier les aliments emballés, selon un sondage Opinionway. Julie Sauvêtre de Zero Waste France ne veut pas que la crise sanitaire fasse oublier l'urgence environnementale.
Dans les derniers mois, avant la crise, on était vraiment sur une lancée extrêmement positive en matière de réduction du plastique à usage unique, grâce notamment à la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire qui a été votée début janvier. Et donc, on veut vraiment espérer que les consommateurs comme les industriels iront dans le même sens, c'est-à-dire celui de la réutilisation et de la réduction du jetable et de l'usage unique.
Pour l'ONG, c'est au gouvernement de montrer l'exemple en investissant notamment dans des masques réutilisables.
Oui, et le tout plastique, il faut le rappeler, n'est pas la solution contre le coronavirus.
Oui,
Quentin Vinet.
C'est l'Organisation mondiale de la santé qui dit ça, se laver les mains. Je donne un exemple, se laver les mains, c'est de toute façon plus efficace que porter des gants à usage unique. Et en réalité, dans les magasins notamment, le réutilisable ne pose pas de problème sanitaire. Ça, c'est ce que dit l'ADEME, l'Agence pour la maîtrise de l'énergie. Alors c'est vrai, on se tourne vers le plastique parce que ça rassure. Et on a pris de nouvelles habitudes aussi pendant le confinement. La crise a chamboulé la façon dont on fait nos courses. L'achat en ligne et dans les magasins de proximité est monté en flèche. Et même si les Français sont de retour, hein, les chiffres nous le montrent dans les centres commerciaux, ils sont plus de 30% selon les études à vouloir réduire leur fréquentation dans les magasins pour faire leurs courses, y aller moins souvent, privilégier le drive par exemple et acheter français ou dans des circuits courts, quitte à payer un petit peu plus cher.
Allez-y, vous réagissez à ce que vient de dire Quentin. C'est pas compliqué. Vous avez des réactions d'ailleurs, Mathieu.
Oui, bah tiens, celle de Marion là, oui, sur l'appli Direct Studio qui, oui, elle, dit « Moi, je continue, je me limite et j'utilise, vous savez, les sacs tissus réutilisables et lavables. Oui. En plus, ils sont vendus en supermarché, nous dit Marion. » Donc pas de
effectivement, vous continuez à appeler 3216, notre lien, vous le savez. Vous avez l'habitude. Allez, 150 citoyens tirés au sort, Convention citoyenne sur le climat et 150 propositions. Il y en a une qui fait débat, 110 au lieu de 130 sur les autoroutes. Jérôme est à Angoulême, en Charente. Bonjour Jérôme.
Bonjour Jean-Jacques.
Alors, abaisser la vitesse, 130, 110 sur les autoroutes, qu'en pensez-vous ?
Oh, ben moi, je pense que c'est prendre le problème par le mauvais sens. On est toujours dans l'écologie répressive. Moi, je roule beaucoup, beaucoup. Et j'ai fait l'effort de m'équiper d'un véhicule qui roule à l'électrique, un hybride rechargeable. Oui. Et je suis sûr qu'en roulant à 130 sur l'électrique, je consomme moins et je pollue moins qu'un diesel ou un essence qui roule à 110.
Vrai. Vrai, Jérôme. Vrai. Vous faites combien de kilomètres par an, Jérôme ?
Ah, moi je suis convoyeur automobile, donc je fais entre 250 000 et 300 000 kilomètres à l'année pour diverses entreprises. Oui. Aujourd'hui, quand vous parlez à un gestionnaire de flotte, il ne se pose même pas la question, il équipe ses commerciaux de voitures diesel.
Oui.
Parce que c'est toujours fiscalement plus avantageux de rouler en diesel. Moi, je pense que cette initiative citoyenne, au lieu de rester dans le répressif, doit mettre l'État devant ses responsabilités et les efforts fiscaux qui doivent libérer l'essence aujourd'hui doivent réellement voir le jour.
Bien, ben nous verrons 150 propositions, nous verrons quelles sont les propositions qui seront retenues par le gouvernement. Et d'ailleurs, je crois que j'en parlerai lundi matin avec Elisabeth Borne, qui est la ministre en charge du dossier. Oui.
Non, mais cette convention citoyenne, juste pour information, argumente sa proposition. Ça réduirait, selon cette convention citoyenne, de 20% les émissions de gaz à effet de serre sur autoroute. Ça ferait économiser 1,40€ par 100 km en moyenne sur le carburant. Ça baisserait aussi la mortalité et les dommages corporels sur les routes, selon les études qu'on conduit cette convention citoyenne pour le
bien. Temps. Il est 6h13. Parlons des discothèques, des boîtes de nuit, avec Aurélien Dubois. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes président de la Chambre syndicale des lieux musicaux festifs et nocturnes. Les lieux musicaux festifs et nocturnes, ce sont les discothèques, les boîtes de nuit, mais pas que, j'imagine, non ?
Non, on va dire qu'aujourd'hui, il y a eu une évolution sur les usages, les comportements des gens qui sortent. Et pour s'adapter à la baisse de fréquentation de nos établissements, les discothèques, anciennement, aujourd'hui, on a une transversalité transversalité d'exploitation où on a des établissements qui ne font pas que de la discothèque et de la
ville. C'est-à-dire
qu'ils font... on fait des concerts, on fait de la petite restauration, on fait beaucoup de choses. Et effectivement, aujourd'hui, on est très content d'être avec vous pour en parler parce qu'on nous a un peu oublié, malheureusement. La ville reprend, mais la ville, la fête ne reprend pas, la nuit non plus. Et on est très inquiet sur notre devenir, en fait.
Ben, évidemment, parce que vous êtes toujours fermé. Et vous êtes toujours fermé depuis la mi-mars.
Toujours fermé. Très peu de communication aujourd'hui. On communique un peu avec le ministère du Tourisme, avec le ministre Lemoine. Mais aujourd'hui, il y a un conseil de défense qui doit statuer sur les propositions qu'on a faites. Et on espère qu'on va aller dans le bon sens parce qu'on nous demande, à tout le monde de retourner au travail, de repartir dans la vie économique. Mais les gens aussi ont aussi besoin de sortir, de se voir, de discuter, de faire la fête. C'est quand même, nos établissements sont comme un exutoire, un lieu où on échange. Et Dieu sait qu'en ce moment, on a besoin.
Alors vous demandez évidemment la réouverture de vos établissements le plus vite possible.
Bien évidemment, on ne comprend pas pourquoi la vie reprend,
oui,
que la vie chez nous ne reprend pas.
Oui,
aujourd'hui, on voit aussi à Paris, on est à Paris en l'occurrence, mais beaucoup de terrasses sont pleines dès qu'on a la chance qu'il fasse beau.
Oui.
On ne voit pas pourquoi les terrasses seraient pleines et les établissements ne seraient pas remplis non plus.
Bah évidemment, mais évidemment. Aujourd'hui, vous êtes fermé, il y a un conseil de défense aujourd'hui, donc il est fort probable, fort probable que ça ouvre à partir, que vous puissiez ouvrir à partir de lundi, non ? D'après les informations que vous avez. Moi, je le sens bien.
On aimerait beaucoup. Oui. On a vu les railleries, notamment quand le député Blanchet est passé à l'Assemblée nationale et a abordé le thème des discothèques. A priori, on sait que beaucoup de gens qui sont au gouvernement et dans l'hémicycle, fait assez longtemps qu'ils ne sont pas sortis dans des établissements.
Oui. Bon,
un ministre, en l'occurrence, sorti de temps en temps la nuit, mais on va pas revenir sur ce dossier-là.
Oui.
Mais si vous voulez, l'idée aujourd'hui, c'est de dire que on a besoin de cette stabilité dans un climat qui est assez tendu.
C'est bien qu'un ministre sorte la nuit pour vous.
Bah, nous, on adore et on aimerait plus les voir.
Bah, oui.
Et ça permettrait notamment d'être plus en relation avec eux et comprendre que c'est l'équilibre social et la cohésion sociale passe aussi par nos établissements.
Ça représente combien de salariés, combien d'entreprises?
Alors, nos entreprises représentent à peu près 6 000 entreprises avec 100 000 emplois directs et 100 000 emplois indirects. Et ce qui est très important...
100 000 emplois directs et 100 000 emplois indirects.
Avec à peu près 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires.
Oui.
Et puis quand on pense aux établissements nus aux discothèques, on ne pense pas non plus aux artistes, aux sociétés de production musicale, aux intermittents. Mais il y a tout un écosystème très important autour. Et puis surtout, on est maintien de la cohésion sociale dans la ville. Parce que s'il n'y a pas d'établissement de nuit, les gens font la fête où? Chez eux, dans la rue, etc. Et donc ça crée des problématiques.
Charles.
Oui, mais vous parlez des terrasses bondées. C'est moins dangereux d'un point de vue sanitaire. Une terrasse en extérieur, d'être tous confinés dans un endroit clos, on le sait. Donc alors, il va falloir s'adapter quand même. Pour ouvrir, c'est bien, mais dans quelles conditions?
Mais comment, dans quelles conditions?
Absolument. Donc nous, on a proposé des protocoles sanitaires. Et de surcroît, il faut savoir que nos établissements, on est des établissements avec des vrais professionnels. On a des problématiques dans la nuit qu'on n'a pas forcément sur les terrasses de café. Et donc, on a à peu près un personnel pour 30 personnes. Donc on est vraiment beaucoup de staff. Et l'idée, c'est qu'on puisse faire de la sensibilisation, de l'accompagnement, et qu'on ait des gestes barrières qui soient mis en place.
Parce que difficile de danser avec un masque ou de...
On propose des masques à disposition pour les gens qui le veulent, des tests au thermomètre, mais l'idée aujourd'hui c'est des lieux de rencontre, des lieux de discussion. Bien évidemment, on ne va pas imposer des masques dans des établissements.
On ne s'embrasse pas,
on va dire que dans un premier temps, on va inciter les gens en tout cas à venir et à se rencontrer avec la responsabilisation qu'on peut leur conseiller. Mais bien évidemment, on sait très bien qu'il y aura un échelonnement.
Les heures passant.
Oui, absolument.
mais on ne souhaite qu'une chose, c'est vrai que ça rouvre. Mais évidemment, il faut que ça rouvre. Il faut que ça rouvre, parce que c'est l'équilibre de toute une société aussi.
Une attractivité touristique,
mais
aussi
Dubois,
culturelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est quand même les lieux d'émergence artistique aujourd'hui en France.
Oui.
Si on n'est plus ouvert, les jeunes artistes ne s'expriment plus, etc. Et c'est toute une chaîne qui finalement... tombe dans l'oubli malheureusement, et on a eu beaucoup de mal à arriver à structurer un secteur, et on a une union syndicale aujourd'hui avec tous mes confrères syndicaux et avec qui on a pu parler en direction du gouvernement. Ça serait dommage qu'on ne soit pas entendu et qu'on n'en
parle pas rapidement. J'espère que vous allez être entendu. Aurélien Dubois, ici on nous écoute pas mal, c'est bien, vous avez eu raison de venir. Merci beaucoup Aurélien Dubois.
Merci de nous avoir accueillis, merci.
Non, mais c'est normal, merci. Et accueillez Charles, si vous le voyez arriver dans un des établissements
avec
de votre
grand
association.
Plaisir. Si vous voyez un ministre, vous m'appelez, je débarque.
Il est 6h18. Bien, merci, 6h18. Qu'allons-nous faire, Mathieu?
Eh bien, on va continuer de débattre avec vous parce que c'est vrai, les 110 km/h, c'est vraiment le sujet qui vous fait le plus appeler ce matin au 32-16.
Il y a plusieurs sujets, le packaging du riz Uncle Ben's,
aussi.
Jugé raciste.
Aussi.
Uncle Ben's, aux États-Unis, pas en France quand même.
Non. Ah bah ça va disparaître de tous les paquets. Hein.
Ah bah oui, de
c'est
tous les paquets.
C'est une décision de la société Mars à laquelle appartient
exactement.
La Uncle Ben's.
Et puis on parlera aussi de l'affaire Fillon, parce que quand même je suis un peu intrigué. Cette magistrate en charge de l'enquête qui affirme avoir subi des pressions pour ouvrir une information judiciaire, ça fait réagir à juste raison, notamment tous ceux qui ont voté ou qui voulaient voter pour François Fillon. Nous en parlerons ce matin avec Quentin Vinet. J'en parlerai avec Nadine Morano, mon invitée tout à l'heure. À 8h35 sur RMC et BFM TV, ne la ratez pas d'ailleurs parce que je crois qu'elle est en forme, il est 6h20.
RMC
6h-9h. Bourdin
Direct.
Il est 6h22 tous les matins. Trois histoires, trois images avec Charles Magnin. Nous commençons, Charles, par un hommage au coq Maurice.
Mais oui, Jean-Jacques, on ne l'a appris qu'hier, mais le célèbre coq Maurice est décédé au début du mois de mai sur l'île d'Oléron. Corinne, sa propriétaire, a préféré attendre la fin du confinement pour annoncer la nouvelle, car Maurice était une star, un emblème, un héros, dit Corinne. Maurice avait remporté tous ses combats judiciaires contre ses voisins qui l'accusaient de faire trop de bruit en chantant à 6h du matin, devenu un symbole des bruits de la campagne.
Il chantait bien.
Il chantait bien, il avait eu les honneurs de la presse internationale. Ouais. Son histoire a poussé les députés à voter une loi introduisant la notion de patrimoine sensoriel des campagnes dans le droit français. Une vie bien remplie pour Maurice qui est donc parti à l'âge de 6 ans, ce qui est très respectable pour un coq.
Ah bon, Corinne, oui. Combien de temps vit un coq?
6 ans, c'est relativement...
Tiens, nous allons demander à Quentin.
Mais Quentin va vérifier, évidemment.
Et Mathieu,
suite. En tout cas, Corinne, dans Sud-Ouest, explique que jusqu'au bout, Maurice a été veillé par deux poulettes inconsolables.
Ah
et
bon
son successeur, oui. Mais oui. Et son successeur, baptisé Maurice II, a déjà pris le relais dans le jardin de Corinne.
De 5 à 10 ans, visiblement.
De 5 à 10 ans, il a vécu 6 ans. Oui.
C'est pas mal.
Pas mal. Hein.
Mal
ouais.
Il vit bien
dans la moyenne.
Il est mort assez jeune, Maurice.
On le regrette.
L'histoire du jour, près de Toulouse, deux jumeaux de 5 ans s'échappent de l'école pour rentrer à la maison.
Oui, deux enfants scolarisés à l'école maternelle de Castanet-Tolosan, au sud-est de Toulouse. Grosse frayeur pour leur père, qui vendredi dernier les dépose à l'école à 8h30, comme d'habitude, et les voit débarquer à la maison, trois heures plus tard, tout seuls. Les enfants ont échappé à la surveillance de tout le personnel de l'école, sont sortis dans la rue, ont parcouru 1 km à pied pour rentrer chez eux. Heureusement, leur père ne travaillait pas ce jour-là. Il a d'ailleurs immédiatement porté plainte, et le rectorat assure qu'il mène de son côté une enquête pour comprendre ce qu'il s'est passé dans l'école ce matin.
Oui, surtout avec le déconfinement, il y a moins d'enfants dans les écoles.
En théorie, voilà.
En théorie, il n'y a pas de souci. À Saint-Denis, les cyclistes Saint-Denis, en région parisienne, les cyclistes tombent comme des mouches sur la nouvelle piste cyclable.
Mais oui, on installe des pistes cyclables un peu partout en ville, mais à Saint-Denis, la nouvelle piste à double sens est particulièrement dangereuse pour les cyclistes. Ses concepteurs ont eu la brillante idée d'installer au milieu de la piste des bornes arrondies, des sortes de demi-boules au sol qui sont de la même couleur que la peinture sur ce même sol. Résultat, les bornes sont quasiment invisibles. C'est difficile de les distinguer sur les photos.
Sûr. Même alors, sur la photo, on ne voit pas.
On a déjà du mal sur la photo avec les boules blanches. Alors imaginez à pleine vitesse sur un vélo. Forcément, les chutes se multiplient. Un cycliste a tiré la sonnette d'alarme sur Twitter après avoir fini aux urgences à cause de ces demi-boules invisibles. Il est presque plus sage pour les cyclistes d'éviter la piste cyclable et de rester au milieu des voitures. Les habitants ont fini par repeindre certaines de ces boules eux-mêmes en rouge pour limiter le danger, en attendant que la mairie comprenne son erreur.
Joule, le rappeur.
Joule, vous êtes sûr?
Joule qui sort un album.
Pourquoi Joule?
Si vous voulez. Joule, l'album est sorti cette nuit, ça s'appelle La Machine. Premier single, reprise d'un tube des années 80.
Et je lis choque depuis toutes ces années. Et je danse dans un lundi reprogrammé. Je fais gaffe avec qui je traîne jusqu'au bout de la nuit. Je veux pas voir débouler les ennuis et la police.
Et vous aurez reconnu Nuit de folie de début de soirée, un tube des années 80 repris par Joule. Et Joule, quand même,
on parlait des discothèques tout à l'heure.
C'est tube de l'été assuré.
C'est imbattable.
J'aimerais quand même vous donner quelques chiffres. Oui. C'est le 20e album de Joule en l'espace de 5 ans. Il a vendu 4 millions de disques en France, deuxième plus gros vendeur de la décennie derrière Johnny, chanteur populaire qui évite les médias traditionnels, pas d'interview, radio, télé. Pour ce nouvel album, il fait sa promo sur Fortnite et sur YouTube avec un concert diffusé en direct ce dimanche.
Et s'il venait nous voir voir Jul.
Mais oui, Jul, ah, bah, hein,
pourquoi pas.
Ah, ça,
tiens, je vais lui suggérer. Tiens,
l'appel est lancé.
C'est supporter de l'OM en plus, Jul.
Ah bah, icône de bah,
vous, un supporter du Paris Saint-Germain, vous faites ah, l'éloge de Jul. Bravo.
Il dépasse largement les frontières phocéennes dans le cœur des Français.
C'est vrai que c'est bien. Océane.
Oui, bonjour.
Saint-Médard-en-Jalles, oui, c'est en Gironde. Ça va, Océane?
Oui, merci. Bonjour, bonjour
bon,
à tous.
Bonjour, vous êtes infirmière libérale.
Hein, oui, Océane, c'est ça.
Le veto. Vous écoutez la radio, vous regardez la télé le matin?
Oui, j'écoute la radio pendant ma tournée.
La radio pendant votre tournée. Bon, eh ben, écoutez, ça nous fait plaisir. Qu'est-ce qui se passe, Océane?
Alors, moi j'ai appelé parce que on a un petit problème en ce moment. Bon. Et ça fait 3 mois hein, qu'on a ce problème-là. On n'a plus de gants. On n'a plus de gants pour travailler. Alors, on a commencé par pas avoir de masque, puis plus de solution hydroalcoolique.
Des masques, vous en avez maintenant, il y en a partout.
Ah bah maintenant, il y en a partout. Donc là, oui, c'est plus un problème. Même au magasin de bricolage. Là, le problème, il est qu'on n'a plus de gants. Ça fait déjà 3 mois. Les fournisseurs nous disent qu'ils ne peuvent pas fournir avant fin août.
Ah bon?
Et tous nos magasins de matériel médicaux, les pharmacies, ne peuvent plus nous fournir de gants parce que les gants ont été pris d'assaut pour aller faire les courses, pour voilà,
ah
pour
oui, tout
moyen
monde,
de protection.
Tout le monde les utilise même un c'est peu à tort et à travers.
Voilà, exactement.
Et du coup, il n'y en a plus pour vous?
Non, il n'y en a plus pour nous, pour les aides-soignantes, pour les kinés, pour voilà, on est en pénurie de gants. Moi, là, techniquement, il me reste 6 boîtes pour faire 3 mois.
Oui.
Une boîte par jour, ça devient compliqué. Voilà.
Évidemment.
Donc, voilà, on est je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas quand, ce qui va faire réagir un peu les pouvoirs sur la production de gants, parce que c'est une protection pour nous, une protection primaire, et on se doit de mettre des gants,
bien sûr.
Même si ça n'empêche pas le lavage des mains, bien sûr,
bien sûr.
Mais pour les soins, on ne peut pas faire autrement, voilà. Donc j'appelle à l'aide, j'appelle à toutes les oreilles qui vous écoutent, pour éveiller un peu tout le monde déjà sur la consommation de gants. N'allez pas faire vos courses avec des gants, désinfectez-vous les mains, lavez-vous les mains, mais les gants ne servent
bien
à rien.
Sûr. À rien, mais bien sûr, mais je suis totalement d'accord avec vous. Merci Océane.
Merci à vous.
Merci vraiment d'être avec nous. Merci.
Merci.
6h29. Au revoir. La machine à café 3216, la touche 50 à Vinet.
Et le mot matin par SMS au 73216.
À suivre un grand débat.
Un grand débat
dans le Gard. Faut-il laisser Amazon s'implanter à Fournes? Alors le maire est pour.
Alors Amazon qui veut implanter une plateforme logistique. C'est vrai dans le Gard, c'est vrai dans plusieurs régions de France où il y a un vaste débat. Ceux qui sont pour, ceux qui sont contre.
Et le débat, c'est juste après le journal de 6h30 sur RMC.
6h30, c'est l'heure des infos avec Pierrick Bonneau. Pierrick, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. À la une ce matin, l'impact de la mobilisation contre les discriminations raciales aux États-Unis. Quand le marketing s'empare des questions de société, le propriétaire de la marque Uncle Ben's annonce qu'il va modifier l'identité visuelle de son logo. Des prévisions de croissance moins catastrophiques que prévues en France au deuxième trimestre. L'INSEE table désormais sur une chute du PIB de 17% au lieu de 20%. Mais les entreprises ne crient pas victoire trop vite. Et puis une fête de la musique pas comme les autres ce dimanche. Très peu de rassemblements autorisés. Alors dans les bars, on va tenter de s'adapter. Reportage à Toulouse à la fin de ce journal. Bon réveil, bienvenue à tous. Le célèbre Uncle Ben's va disparaître des paquetteries de la marque américaine. En plein mouvement sur les violences policières et les discriminations raciales aux États-Unis, le géant agroalimentaire Mars, qui possède la marque, annonce que le temps est venu de faire évoluer l'identité visuelle d'Uncle Ben's. Initiative indispensable ou hystérisation du débat? Les avis sont partagés, Margot Bourdin.
Accusé de véhiculer des stéréotypes racistes, le célèbre logo de la marque Uncle Ben's, qui représente un homme noir, âgé et souriant, va changer. Une bonne nouvelle pour Louis-Georges Tain, le président du Conseil représentatif des associations noires de France.
Les marques sont évidemment un élément de la culture populaire. On sait l'imaginaire de Balania, par exemple, en France. C'est beaucoup par les marques ou par la publicité que les représentations se diffusent.
Une autre marque américaine qui commercialise de la farine et du sirop d'érable, Aunt Jemima, a également prévu de changer de nom d'ici la fin de l'année et de se débarrasser de son visuel, une femme noire au sourire éclatant.
L'hystérisation du racisme est la pire des choses pour le combat contre le racisme.
Pour Franck Tapiro, conseiller en communication, ces marques agissent plus par opportunisme.
Les marques réagissent sur l'émotion. Et sur le coup de l'émotion, elles se disent, il faut changer quelque chose. Oh, il y a une représentation noire qu'on a depuis un siècle. On va nous traiter de racistes, on l'enlève. Arrêtons de faire des faux combats.
De nombreuses marques ont également prévu de verser des dons pour améliorer l'intégration des minorités et promis de faciliter leur embauche.
Les 150 propositions de la Convention citoyenne pour le climat présentées au chef de l'État ce dimanche. Et on connaît déjà les principales mesures de ces 150 citoyens tirés au sort pour réfléchir à la réduction des gaz polluants, obliger les propriétaires à rénover leur logement, interdire la construction ou l'extension d'aéroports ou encore limiter la vitesse sur l'autoroute à 110 km/h. On y revient dans le journal de 7h. On vous parle depuis le début de la semaine des plans sociaux qui commencent à toucher les entreprises françaises, dans les médias, dans le tourisme, chez Air France. Mais l'économie ne se porte pas si mal que ça. En tout cas, c'est moins catastrophique que prévu. Le PIB devrait finalement baisser de 17% au deuxième trimestre. Les premières prévisions de l'INSEE parlaient de moins 20%. Avec le déconfinement, l'économie redémarre, les restaurants ont rouvert, les chantiers ont repris. Mais attention à ne pas crier victoire trop vite. Victor Joannin.
Les Français se sont remis à consommer et les fabricants de biscuits en profitent, comme Alexis de Galambert.
Au pic de l'épidémie, on avait 30 personnes au chômage partiel. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 4. J'espère pouvoir les faire revenir très vite. On est toujours dans l'attente du jour d'après en se disant que ça va être mieux que le jour d'avant. Pour le moment, on tourne à 60-70%. C'est vrai que je trouve que la crise est quand même très dur et très grave, mais je m'attendais à pire. C'est plutôt chouette de voir que la France redémarre vite. Maintenant, si elle pouvait rebondir encore plus vite, je pense qu'on en serait tous très satisfaits.
La consommation a rebondi, mais les entreprises sont encore trop frileuses pour investir, notamment dans les machines-outils produites par la société de Bruno Grandjean. Encore aujourd'hui, ses 400 salariés sont tous en chômage partiel.
Les entreprises n'ayant pas de visibilité sur leur carnet de commandes, sur l'avenir, risquent de rechute. Elles sont aujourd'hui un peu en mode survie. Et donc, investir, acheter des machines, des équipements, des robots, ce n'est pas dans leur priorité.
Selon la Banque de France, il faudra encore attendre 2 ans avant d'espérer un retour à la normale.
Un chiffre ce matin, chaque année, 70 000 femmes seraient potentiellement menacées par un mariage forcé en France. Chiffre du Haut Conseil à l'intégration. Une dizaine de cas seulement seraient signalés aux autorités. Mardi, à Limoges, une jeune fille de 15 ans, originaire des pays de l'Est, a lancé un appel à l'aide d'un bout de papier jeté de sa fenêtre. C'est un ouvrier qui est tombé dessus par hasard et qui a alerté la police. Gladys Lafitte.
Mardi, en milieu d'après-midi, un ouvrier de chantier récupère un petit mot jeté par la fenêtre d'un appartement proche dans la cité de la Bastide à Limoges. Sur le papier, ces mots: aidez-moi s'il vous plaît, appelez la police, je suis marié de force, âge 15 ans, appelez aussi les assistantes sociales qu'ils viennent me chercher s'il vous plaît. Aussitôt prévenus, les policiers découvrent une jeune fille de 15 ans dans l'appartement avec ses parents, originaires des pays de l'Est. L'adolescente montre aux fonctionnaires des traces de maltraitance sur ses jambes. Elle dit avoir reçu des coups de câble électrique de son père 15 jours auparavant, alors qu'elle lui annonce son refus de se marier. Ses parents l'avaient promise à un autre jeune homme en échange d'une grosse somme d'argent, une dot de plusieurs milliers d'euros. Le temps de l'enquête est de vérifier si elle dit vrai. La jeune fille a été placée dans un foyer d'accueil.
ACMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, a reconnu cette nuit la mort de son chef, l'Algérien Abdelmalek Droukdal. La France avait annoncé au début du mois que les forces spéciales l'avaient abattu dans le nord du Mali. ACMI promet de poursuivre le combat contre les forces françaises engagées en Afrique du Nord et au Sahel. Une fête de la musique, pas comme les autres ce dimanche. Nous serons le 21 juin et les rassemblements de plus de 10 personnes seront toujours interdits dans l'espace public en France. Pas de musique donc cette année dans les rues. Le ministère de la Culture autorise simplement quelques concerts dans des lieux où il est possible de respecter la distanciation sociale. Alors dans les bars, on va s'adapter. Reportage à Toulouse, Jean-Wilfried Forquès.
Dans ce café-restaurant, pas évident de trouver une place pour les bandas, la fanfare locale qui va animer la soirée.
Les bandas, on va les mettre à la place de la table juste à côté de toi. On va essayer de les écarter un maximum et que les gens vraiment sur la salle, comme d'habitude, soient écartés par groupe de 10 personnes maximum.
Pour Julien Roumagnac, le gérant, la distance sociale risque de gâcher la fête.
Quand vous écoutez ces musiques-là, les gens, qu'est-ce qu'ils ont envie? Ils ont envie de se sauter dessus, de chanter ensemble, de passer un moment convivial. Et là, ce moment, on nous le supprime pour le moment.
Luc et plusieurs amis musiciens se relaieront sur scène dans une maison de campagne sans public. Le concert sera retransmis sur Facebook et diffusé dans 4 cafés toulousains. Luc en arrive même à regretter les concerts improvisés pendant le confinement.
Même sur le balcon, bah, y avait les gens, ils étaient là, ils étaient en face, ils applaudissaient, ils attendaient que ça. Et là, bah, du coup, pendant la fête de musique, bah, on ne l'aura pas. On n'aura pas ces gens et ce retour des gens. Malgré tout, on va quand même jouer. On joue pour la fête de la musique. On est musicien, donc on joue pour la fête de la musique.
À Toulouse, aucun rassemblement musical spontané ne sera autorisé.
Vous avez pris prévu de sortir le saxophone, Mathieu Roux.
Oui, Mathieu, c'était un grand musicien, vous savez.
Oui,
bien sûr.
Vous aussi, Jean-Jacques, non ?
Non, non, moi je suis absolument nul. Nul, absolument nul. Mais j'aime bien chanter. Vous chantez ?
Non, j'ose pas.
Vous êtes là ?
J'ose pas.
Pourquoi vous n'osez pas ?
Je sais pas, j'ose pas.
Ah bon ?
Mais ouais. Mais si vous chantez, venez, je vous accompagne au piano.
Non, 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 moi non.
Mais pourquoi pas ?
Parce que oui, c'est vrai que vous êtes pianiste. Grand pianiste.
Petit pianiste.
Petit pianiste.
Petit pianiste.
Bon, on va parler des courses.
À Mokanchi, Rouen-Mokanchi, 18h, à vivre en direct sur le canal 24 de la TNT, RMC Découverte. Le pronostic, favori numéro 10, 50 Black, outsider numéro 12, fidèle du Goutier. Le 10 et le 12.
Bien, nous allons prendre Alexandre à propos de la vitesse, la réduction. C'est la proposition, l'une des propositions, des 150 propositions de la Convention citoyenne sur le climat. Réduire sur autoroute la vitesse de 130 à 110. Nous parlions de musique avec Quentin Vinet. Cette fête de la musique dont on parlait là dans le reportage à Toulouse. Cette fête de la musique ne sera pas comme d'habitude. Les consignes du ministère de la Culture sont très strictes.
Oui, parce qu'on l'a dit, les rassemblements de plus de 10 personnes sont toujours interdits. Donc les concerts improvisés dans la rue, avec du public tout autour, ils ne seront pas autorisés cette année. Pour pousser la chansonnette sur la voie publique, sur le trottoir, il faudra un accord de la préfecture en lien avec la mairie. Et dans les bars, dans les cafés et dans les restaurants, les concerts seront autorisés, oui, mais ils seront déconseillés dès qu'il y aura un risque d'attroupement. Il faudra en fait éviter, il faudra de toute façon respecter les règles sanitaires.
Bien, je prends très vite Alexandre qui est dans le Rhône. Bonjour Alexandre.
Oui, bonjour Jean-Jacques.
Oui, pas trop vite, hein, Alexandre.
Pardon ?
Non, je disais je prends très vite Alexandre, pas trop vite.
Oui.
Alexandre, vous, que pensez-vous de cet abaissement de la vitesse sur autoroute à 110 ?
Alors déjà, en fait, c'est une hypothèse pour l'instant.
Oui, c'est une hypothèse, une proposition.
Voilà. Et effectivement, alors moi, en fait, si vous voulez, ce que je conteste un tout petit peu, c'est l'argument qui consiste à dire que 8 minutes sur une heure, c'est pas grand-chose. En fait, si on fait un calcul relatif, en fait, ça fait entre 13 et 14% de temps en plus. Et progressivement à ça, on a donc un abaissement potentiel, moi, que j'ai estimé à 9% d'après les chiffres que je connais de mon véhicule. Donc, je fais à peu près 50 000 km par an. Voilà, aujourd'hui, je roule, entre autres, beaucoup sur autoroute. Et il ne s'agit pas non plus de la totalité des trajets. C'est-à-dire que là, il faut aussi prendre ça en compte. C'est-à-dire que sur un trajet global, l'autoroute, c'est pas l'intégralité du trajet. Donc en fait, les 9% que je viens de citer, en fait, ça.
Pour nous résumer, Alexandre, vous êtes favorable ou pas ?
Non, parce qu'en fait, ça ne, pour moi, si vous voulez, c'est tant sur l'argument sécuritaire que sur l'argument de la pollution. Pour moi, c'est pas un argument qui s'entend quand on dit c'est pas grand chose.
Je comprends. On peut pas dire c'est pas grand chose. Je comprends. Merci Alexandre.
Ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder que c'est pas sur les petits trajets que c'est important le temps finalement que vous mettez, mais sur les longs trajets.
Oui, bien sûr.
En général, c'est sur les longs trajets.
Mais bien sûr.
Un trajet de 3 heures, par exemple, là, c'est plus 8 minutes, c'est 24. Ouais. Et puis, on peut aller aussi vers ça.
Bien, merci Alexandre, il est 6h41, merci, nous allons partir pour le Gard. Il y a débat autour de l'implantation d'une plateforme logistique d'Amazon dans le Gard. A tout de suite, on va l'ouvrir ce débat dans 2 minutes.
RMC, 6h-9h,
Bourdin Direct.
Bien, implantation, il y a plusieurs débats un peu partout en France parce qu'Amazon a le projet d'implanter plusieurs plateformes logistiques. Nous sommes à Fournaise dans le Gard avec le maire Thierry Boudinot. Bonjour Thierry Boudinot.
Monsieur Bourdin, bonjour.
Merci d'être à Fournaise. Alors, très vite, combien d'habitants ? À quel endroit exactement ? Pour ceux qui ne savent pas, moi je connais, mais pour ceux qui ne savent pas. Allez.
1098 habitants, c'est situé à 10 minutes de Nîmes d'un côté, 10 minutes d'Avignon de l'autre, et Arles plus au sud à 30 minutes.
Oui, voilà. C'est surtout entre Nîmes et Avignon, au bord de la c'est Neuf, ça. Près de la
exactement.
Neuf, hein, Thierry Boudinot.
Exactement.
Bien,
exactement.
Amazon veut implanter une plateforme logistique sur votre commune. Combien de mètres carrés, donc quelle surface et combien d'emplois ?
Alors, il s'agit d'un territoire qui est en prise directe avec la sortie d'autoroute numéro 23, sur un espace qui fait 17 hectares au total. Ce projet-là porte sur 13 hectares et demi et 37 500 mètres carrés couverts.
Et combien d'emplois prévus ?
Alors, nous sommes, entre 150 et 200 emplois.
Entre 150 et 200 emplois.
Ce sont les chiffres que nous retenons.
Alors, vous défendez l'implantation de cette plateforme. Pourquoi, Thierry Boudinot ?
Alors, nous défendons surtout l'implantation et le développement de l'économie sur notre territoire. Nous avons été frappés sur ces dernières années par la fermeture de la centrale thermique d'Aramon.
Oui.
Nous avons été frappés aussi par les désagréments d'une grosse entreprise qui était spécialisée dans l'emballage sur Remoulin, qui comptait plus de 600 emplois, oui. Et qui en est maintenant à 90. Et on est de façon générale sur notre territoire entre 12 et 14% de chômage. Donc il y a une vraie nécessité de développer l'économie et l'emploi.
Je sais qu'il y a débat dans la commune et autour de la commune. Hein. Il y a un vrai débat, il y a les pour, il y a les contre. Qui sont ceux qui sont pour et qui sont ceux qui sont contre, Thierry Boudinot ?
Écoutez, d'abord, concernant les contre, je pense qu'il faut faire la distinction entre une poignée de personnes sur le village qui veulent régler certains comptes avec les élus.
Oui.
Donc, ils ont choisi les attaques personnelles et les attaques au pénal directement.
Oui.
Et ensuite, il y a des associations ou des gens qui regardent la chose d'un peu plus haut et qui avancent des arguments qui sont que nous entendons, que nous écoutons
Et qui ne vivent pas à Fournes.
Et qui ne vivent pas forcément à Fournes, tout à fait.
Bon, alors nous allons mettre face à vous, Thierry Boudinot, Raphaël Prado, qui est le porte-parole d'Attaque France et qui est opposé à l'implantation de cette plateforme. Raphaël Prado, bonjour.
Bonjour.
Je vous entends de loin, Raphaël Prado, mais on va voir si on peut améliorer le son. Est-ce que vous êtes contre, pourquoi ?
Bah, contrairement à ce qui vient d'être dit, Amazon ne crée pas d'emplois, Amazon en détruit. Alors je veux bien que, effectivement, on fasse miroiter dans des communes comme ça où il y a un fort taux de chômage la création de 150 emplois, mais non seulement ce sont des emplois de très mauvaise qualité, des emplois très précaires et avec aussi une forme d'ubérisation de l'emploi, mais si on regarde, le problème c'est que ça détruit beaucoup plus d'emplois que ça en crée. Hein. La plupart des chiffres donnent un emploi créé pour deux emplois détruits dans les commerces de proximité. Donc si monsieur le maire veut revitaliser sa commune, c'est peut-être pas la meilleure manière de tuer les commerçants pour faire venir Amazon. Il y a
beaucoup de problèmes.
Attendez, Thierry Boudinot. Raphaël Prado termine et ensuite vous répondez. Allez-y, Raphaël Prado.
Il y a d'autres problèmes qui se posent. Amazon, c'est aussi un spécialiste d'évasion fiscale. On a vu avec la crise du Covid qu'on a besoin de services publics qui fonctionnent. Or, Amazon, contrairement à la plupart des petites entreprises, ne paye pas ses impôts et contourne l'impôt. Enfin, d'un point de vue environnemental, Amazon, c'est à la fois un modèle de surproduction, de surconsommation poussée à l'extrême. Et dans des territoires comme le Gard, qui...
Oui, homme, coupure. Alors répondez, Thierry Boudinot.
Oui, non, alors par rapport au commerce local, nous on a l'exemple, hein, sur la commune, c'est simple, nous avons un petit commerce qui a joué un rôle remarquable pendant la crise du Covid. Nous avons remarqué, nos principaux opposants là-dessus ne s'y servent pas. Ils sont dans le village et ils ne se servent pas au petit commerce local. Donc la défense du commerce local, ça commence à votre porte. Pour un point. Monsieur Prado évoquait l'évasion fiscale. Ça, certes, peut-être, mais là, c'est à l'État de répondre et à prendre les mesures nécessaires pour éviter ce genre de choses. Nous raisonnons à notre échelle, à l'échelle du territoire, et nous constatons que nous avons besoin de développer de l'économie. Sinon, c'est l'augmentation des impôts au niveau des ménages, au niveau des particuliers.
C'est vital pour une commune comme la vôtre, Thierry Boudinot.
Écoutez, on a perdu aussi les dotations de l'État, hein, pratiquement oui. Entre 30 et 35%, oui. Ce n'est pas rien. Les recettes fiscales liées à la centrale thermique d'Aramon, c'était oui. 33% du budget de la communauté
de communes. Thierry,
c'est considérable.
Oui, c'est considérable. Mais Thierry Boudinot, j'ai une autre question à vous poser. Raphaël Prado parlait d'emplois sous-payés, d'emplois ubérisés, une ubérisation de l'économie. Vous avez obtenu des garanties de la part d'Amazon sur la qualité de ces emplois, sur les salaires, sur les conditions de travail ?
Non, ça, ce n'est pas de notre ressort. Et quoi qu'il en soit, chaque entreprise, il en serait de même avec d'autres entreprises. Nous avons sur le village aussi une petite plateforme de distribution Cdiscount. Personne n'en parle. Et pourtant, les conditions sont certainement les mêmes, peut-être moins bien que chez Amazon.
Ce serait l'une des trois plus grandes d'Europe. Hein.
Alors ça, je ne sais pas d'où sort cette information. En tout cas, nous ne l'avons pas.
Bon.
Je ne pense pas qu'Amazon ou Argan puisse confirmer cela.
Les travaux devraient commencer quand, Thierry Boudinot ?
Alors, pour l'instant, nous sommes dans la période des recours. Oui. Donc, c'est entre les mains de l'administration. Et voilà, il faut purger ces recours. Et puis, que les choses se fassent.
Bon. Merci Thierry Boudinot, merci beaucoup. C'est un vrai problème. Alors, est-ce que vous défendez, merci beaucoup dans tous les cas, maire de Fournaise dans le Gard, est-ce que vous défendez l'implantation des plateformes d'Amazon en France ou pas? Parce qu'Amazon ira ailleurs en Europe. Hein. C'est un choix. C'est un choix environnemental, c'est un choix fiscal, mais c'est un choix salarial aussi, l'emploi. Alors allez-y. Prononcez-vous, 3216, c'est notre lien, vous le savez, Mathieu.
À suivre. Il va faire beau et de plus en plus chaud, les barbecues seront de sortie, mais est-ce que votre barbecue vous envoie un texto quand la côte de bœuf est cuite? Parce que celui d'Anthony Morel, on est capable.
Ah bon?
C'est déjà demain, ouais, dans un instant sur RMC.
RMC. C'est déjà demain. C'est la merguez.
Les mariages, les côtes de porc, les côtes d'agneau, là, je ne sais pas ce que vous mettez sur votre barbecue.
Oh, la côte de bœuf.
C'est évidemment la côte de bœuf. Un petit barbecue pour fêter l'arrivée de l'été. Oui, c'est vrai que c'est l'été.
Ben oui.
À partir de ce week-end, le vôtre est évidemment connecté.
Toujours.
Anthony Morel, vous avez un barbecue connecté, un grill intelligent qui finalement... Est-ce que vous devez poser la viande sur la grille?
Alors toujours, oui, il y a quand même toujours cette épargne.
Ah bon,
mais c'est à peu près tout.
Moi, je pensais que vous aviez un robot qui apportait la viande.
Ah ben, ce sera l'étape d'après, ça peut-être.
Et qui posait la viande sur le grille.
Dans quelques années, on y est.
Ou à l'apéro.
Mais exactement.
Tranquille.
On en est presque là. On en est presque là parce que franchement, vous avez à poser la viande toujours, c'est vrai. Mais alors pour le reste, le barbecue, il s'occupe de tout. C'est vrai que les barbecues là maintenant, on a
la viande ou le poisson ou les légumes.
Ah ben oui, absolument. C'est des monstres de technologie. C'est-à-dire, vous avez une connexion Bluetooth sur certains, vous avez des écrans 4K qui vous montrent le niveau de cuisson auquel on en est, vous avez des assistants vocaux intégrés, c'est-à-dire que vous parlez à voix haute au barbecue et il vous répond. Alors pour lui dire quoi? Pas pour discuter avec lui, mais pour, en gros, il va vous servir d'assistant. Voilà,
si je
d'assistant
lui demande,
culinaire.
Voilà, si je lui demande où en est-on de la cuisson,
c'est ça. Bah, il va vous répondre dans 1:37 vos chipots seront prêtes, par exemple. Il peut savoir parce qu'en
mais
fait
tout dépend du feu dessous.
Alors voilà, c'est ça. En fait, vous déposez les aliments, vous lui donnez, parce que c'est relié à une application sur votre téléphone, donc vous lui dites de quel type d'aliment il s'agit, et ensuite il va tout gérer. Il va gérer la température de cuisson, en fonction de la température, le niveau de cuisson de la viande. Il va vous dire, maintenant, il faut retourner la viande, c'est le moment de l'assaisonner, et quand elle est prête, il va même vous envoyer un petit SMS, voilà, pour vous dire,
mais
c'est
vous
bon,
savez qu'avec
c'est
maintenant qu'il faut servir. Des ustensiles spéciaux pour barbecue, c'est aussi pratique.
Ça, c'est vrai, on peut aussi
tourner la viande ou vous tournez la saucisse.
Oui, aussi, c'est vrai. Enfin là, c'est carrément le barbecue qui discute. Est-ce que là, on vous envoie carrément un SMS pour vous dire
gueule, je ne tourne pas la saucisse.
Il a raison, parce que sinon, vous restez la soirée qui est ruinée. Attendez, Jean-Jacques, c'est pas possible. Mais c'est le truc, c'est qu'on est toujours à l'apéro avec les amis. On laisse
oublie.
La viande. Bah oui, et là, c'est quand même pas mal de recevoir le SMS.
Ou alors, on passe pas vraiment l'apéro parce qu'on est toujours en train de s'occuper du barbecue pendant que tout le monde en profite.
Exactement. D'où l'intérêt
de ces barbecue.
Bon, alors ça peut monter. Alors celui qu'on voyait à l'image, il coûte 8 000 euros.
8 000 euros,
faut mériter les chipots. C'est le modèle le plus cher, et vous avez raison de souligner qu'il y a des outils qui sont moins chers, qui sont technologiques également, et qui permettent d'avoir une assistance. Et notamment, on a des thermomètres intelligents maintenant qu'on va planter à cœur dans la viande, qui sont reliés au téléphone et qui vous donnent des indications.
Le problème, corvée, c'est le nettoyage.
Ah ouais, le nettoyage, c'est la tannée.
Vous avez une solution pour ça?
Eh ben, un robot, justement.
Ah ben
voilà, il y a toujours un robot. Voilà. Un robot nettoyeur, de la même manière qu'on a les robots aspirateurs dans le salon.
Ça, c'est
vous
pas
avez
mal.
Le
ça,
robot.
C'est pas mal. Il est pas
ça,
mal. Bien,
hein, robot truc, nettoyeur de grille. Ça, on trouve ça déjà. Ça coûte une centaine d'euros environ. Donc, vous mettez ça sur la grille et en fait, il a des espèces de brosses en acier inoxydable.
Tout seul, il y va.
Il se débrouille. Ah oui, c'est pas mal. Alors, il prend un petit peu de temps. Il met à peu près une demi-heure. Donc, vous le laissez une demi-heure. Enfin, vous
en fichez. Il est à fil.
Il est à. Non, c'est sur batterie. Sur batterie, on peut le recharger. Donc, voilà. Ça, c'est pas mal pour se libérer de cette corvée du nettoyage de la grille de barbecue avec les morceaux de poulet incrustés.
Tendance, le barbecue. Hein
oui, on parle d'une croissance à 3 chiffres pour les ventes de barbecue pendant le confinement.
Oui.
Plus 360% selon un cabinet spécialisé entre début mars et fin avril. Et alors, C'est même la solution pour faire respecter les gestes barrières, le barbecue. Pourquoi ? Il y a la commune de Cachy, dans la Somme, qui a décidé de remplacer sa fête du village début juin par un barbecue drive. Ce sera pareil pour le 14 juillet.
Barbecue drive.
Chipolata, merguez, andouillette ou grillade avec frites, crudités, fromage et dessert pour seulement 10 euros. Je fais la promo.
Vous faites la promo. Bah, c'était quelle date ?
C'était au début du mois pour la fête du village et ce sera aussi le 14 juillet.
Le 14 juillet, très bien. À quel endroit ?
Cachy, dans la Somme.
Cachy, dans la Somme, allez-y. Il est 6h59 et Véronique n'est pas dans la Somme.
Oui.
Nous traversons la France, mais dans les Alpes-Maritimes.
Oui.
Bonjour Véronique.
Oui, Jean-Jacques. Bonjour Jean-Jacques.
Ça va Véronique ?
On fait comme on peut, Jean-Jacques. Dites-moi. Bon. Vous êtes sensationnel. Vous n'allez pas nous quitter. Allô ?
Oui. Oui, Véronique, je ne vais pas vous quitter. Parfois, c'est contre ma volonté, hein, vous savez. Parfois.
Ah bon, il faut dire. Moi, je vais faire une lettre à l'entreprise.
Non, Véronique. Oh là là, vous savez, on a. Bon, allez, on va changer de sujet. Dites-moi, Véronique, mais je ne vais pas vous quitter parce que je serai là pour l'interview politique, hein, Véronique ?
Oui, non, j'ai vu votre femme à la télé il y a deux jours, c'est dans l'air.
Oui, ah ben oui,
elle
c'est vrai.
Elle est formidable aussi. Oui.
Véronique, bon, vous
plus,
regardez la télé.
Je vais vous demander, Jean-Jacques, est-ce que je peux ?
Oui, vous pouvez quoi, Véronique ?
Et je voudrais savoir, parce que je m'occupe de ma maman qui est sourde, et j'aurais bien aimé qu'il y ait un sous-titrage.
Un sous-titrage sur RMC Découverte ?
Ben oui.
Oui. Ben c'est. C'est le cas normalement.
Ben non.
Non. Pas. Bon, non, écoutez, non. Véronique, je vois ça. Véronique, vous regardez la télé, donc si j'ai bien compris
non,
tous
non,
les
non,
matins.
Non. Moi, je suis pas. Non.
Ah bon.
C'est ma maman qui est sourde.
Votre maman, oui. Qui regarde la télé. Et vous, c'est la radio.
Ben, moi, je suis en train de chercher des émissions et c'est dommage, on peut pas vous écouter. On peut pas. Elle peut pas regarder parce que. Oui. Il n'y a pas de sous-titrage.
Bon. Écoutez, on voit ça, Véronique. Dans tous les cas, vous avez gagné la machine à café, les capsules qui vont avec, ma chère Véronique.
Oui, je suis contente de vous avoir.
Eh ben, moi aussi, Véronique, vraiment. Merci d'être avec nous. Il est 7h01.